France Inter, le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Pollueur, payeur. La Convention citoyenne réclamait la création d'un crime d'écocide. Ce sera un délit d'écocide. Annonce ce matin dans la presse de Barbara Pompili et Éric Dupond-Moretti. Avec la création d'un tribunal spécialisé, les détails dès le début du journal. Un confinement allégé en 3 temps, c'est ce que devrait annoncer Emmanuel Macron mardi soir. Et puis aussi le G20, photo de famille en miniature sur écran, la réunion des plus puissants en visioconférence. Les syndicats lycéens demandent la démission du ministre Jean-Michel Blanquer, on verra pourquoi. Et puis les sports, avarie majeure pour Alex Thompson dans le Vendée Globe. Deux Goliaths du tennis chassés hier du Masters de Londres, exit Djoko et Nadal. La finale se joue entre Tim et Medvedev ce soir. Et puis du rugby tout à l'heure cet après-midi, Coupe d'automne des Nations, la France est en Écosse.
Et à 8h20 ce matin, question à Jean-Noël Jeannonet, historien, ancien ministre, ancien président de Radio France. Il publie le premier tome de ses mémoires, Le Rocher de Sustaine, aux éditions du Seuil.
France Inter. Mettre fin au banditisme environnemental. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, promettent des mesures extrêmement dissuasives dans le journal du dimanche ce matin. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
C'est l'annonce qu'on retient, la création d'un délit d'écocide.
Oui, pas un crime, pénalement c'est moins grave, mais donc un délit général de pollution et un délit de mise en danger de l'environnement, par exemple pour des entreprises qui violeraient délibérément des obligations légales. Pour traiter ces affaires, renforcement annoncé des moyens d'enquête, avec la naissance de juridictions spécialisées dans chaque cour d'appel, avec un tribunal spécialisé compétent au civil et au pénal. Les inspecteurs de l'environnement auront statut d'officier de police judiciaire. Côté sanctions, certains choisissent de polluer parce que ça leur coûte moins cher que de nettoyer. Ça va changer, promet le ministre de la Justice. Peine d'écocide modulée selon le degré d'intentionnalité de l'auteur, de 3 à 10 ans de prison, et des amendes de 375 000 à 4,5 millions d'euros. Pour la mise en danger de l'environnement, 1 an de prison, 100 000 euros d'amende. Que c'est entraîné une pollution ou non, il faut faire respecter le droit de l'environnement partout dans la vie quotidienne, pas seulement sur des affaires retentissantes, justifie Barbara Pompili.
Et le projet de loi climat, merci Béatrice Duguay, ce projet de loi doit être présenté en tout début d'année prochaine.
La décrue sur le front du Covid se confirme.
5000 contaminations en moins en 24 heures. Le nombre de patients en réanimation baisse aussi pour la 5e journée consécutive. L'amélioration de la situation sanitaire, condition sine qua non pour ouvrir les commerces avant le 1er décembre. Ce sera donc chose faite. Les précisions du président attendues mardi soir 20h. Emmanuel Macron qui veut apporter de la clarté et un cap, dit-il dans la presse ce matin. Pas question, on le sait déjà, de déconfiner, mais bien d'adapter le confinement. Ce sera en 3 étapes. L'ouverture des commerces, donc, d'abord. Assouplissement ensuite pour les fêtes. Et puis, à nouveau, courant janvier. Surtout, ne pas aller trop vite, comme en juin, on a bien compris, pour éviter une 3e vague. En tout état de cause, dans un premier temps, les restaurants et les bars seront toujours fermés. Les déplacements aussi resteront limités. Attestation obligatoire encore un bout de temps. Plus de 140 000 infractions relevées par les forces de l'ordre en 17 jours. Mais gare aux abus. Verbalisé parce que je ne portais pas de jogging. Le titre d'un article paru dans le magazine Marianne. L'un des journalistes, Étienne Girard, raconte qu'en mars dernier, en plein confinement, il se fait arrêter. Il a une attestation, mais visiblement, ça ne suffit pas. 8 mois plus tard, voici son PV par courrier recommandé et la moutarde est montée. Clémence Courdon-Négrini.
Quand il a ouvert son amende, Étienne Girard n'a pas compris. Puis il s'est rappelé de l'unique fois où il a été contrôlé pendant le premier confinement.
J'étais sorti prendre l'air avec ma compagne. Après un tour du pâté de maison, on croise une policière et un policier. Vos papiers, s'il vous plaît. Je tends mon attestation de façon tout à fait confiante. Elle nous dit, vous n'êtes pas en tenue de jogging.
Pourtant, la promenade était un motif de sortie, tout comme le sport.
Elle nous demande nos papiers. Elle compare à l'attestation. Merci, circulez, rentrez chez vous.
Il est donc très étonné de recevoir une amende qu'il conteste évidemment et lance un appel à témoignage juste pour voir. Finalement, il en reçoit plus de 100 en 24 heures.
Dans un cas, c'est parce qu'elle mangeait une pâtisserie, donc on lui a dit que elle n'avait pas inscrit qu'elle était allée s'acheter une pâtisserie. Dans un autre cas, c'était parce que la date n'était pas la bonne, la personne s'était trompée. Et en fait, à chaque fois, le policier avait dit « c'est bon ».
Le journaliste attend de savoir si son affaire sera classée sans suite. Plus de 6 mois après avoir contesté leur amende, d'autres n'ont toujours pas de nouvelles de l'administration.
Clémence Gourdon-Négrini. En attendant l'arrivée des vaccins, voici le remède anti-Covid présenté comme miracle par Donald Trump lui-même. Le président américain soigné au Regeneron début octobre des anticorps de synthèse. Eh bien, l'équivalent de la Haute Autorité de Santé aux États-Unis vient de l'autoriser. Ce traitement est experts, les autorités pourraient permettre d'éviter l'hôpital à certains patients, alors que la barre des 12 millions de cas vient d'être franchie dans le pays. Le Covid en plein G20, présidé par l'Arabie Saoudite, en visioconférence uniquement, et des pays, la France en première ligne, qui appellent à davantage de solidarité financière face à la crise. Beyrouth, correspondance Aurélien Colli.
20 chefs d'État et de gouvernement réduits en miniature sur un écran, c'est la photo de famille du G20 version Covid. Une pandémie qui leur a déjà coûté 11 000 milliards de dollars pour éviter l'effondrement de l'économie mondiale et qui va encore leur coûter pour éviter le scénario d'un monde à deux vitesses, selon Emmanuel Macron, un monde où seuls les plus riches pourraient se protéger du virus. Comme l'ONU, comme l'Europe, l'Inde ou l'Afrique du Sud, le président français appelle à garantir l'accès aux vaccins à l'échelle planétaire. Il propose même que les grandes puissances en achètent pour les pays les moins avancés. Angela Merkel, elle, réclame les 4,5 milliards de dollars dont l'Organisation mondiale de la santé a besoin d'ici la fin de l'année. Le président chinois, lui, veut une réponse qui soit aussi économique, moins de taxes et de barrières douanières sur les échanges d'équipements médicaux. Grand absent, malgré l'urgence et les enjeux, les États-Unis. Certes, Donald Trump est intervenu, comme les autres, en visioconférence, mais pour souligner l'excellence de son bilan, avant de s'éclipser pour aller jouer au golf, une dernière touche de mépris et d'égocentrisme dans un concert d'appel à la coopération internationale et au retour du multilatéralisme mis à mal par Washington ces 4 dernières années. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
À l'étranger encore en bref, élections présidentielles et législatives au Burkina Faso ce week-end. Près de 8 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui dans un pays où les violences djihadistes se multiplient. Et puis le Guatemala, une image ce matin, le bâtiment du Congrès en flammes, manifestation monstre contre les restrictions budgétaires.
On revient à présent, Hélène, sur ces nouvelles accusations contre le syndicat Avenir Lycéen.
Qui provoque un tollé. Avenir Lycéen a été créé en 2018 pour servir, selon Libération et Mediapart, la communication du ministre Jean-Michel Blanquer. Les syndicats traditionnels dénoncent une propagande d'État, une tentative d'étouffer les contestations et réclament ni plus ni moins la démission du ministre. Manuel Ruffez.
Les mots sont forts. Après les nouvelles révélations de Libération, le premier syndicat lycéen, l'UNL, dénonce désormais ni plus ni moins que de la corruption de mineurs de la part du ministère de l'Éducation. C'est clair, dit aujourd'hui son président Mathieu de Vlaminck. La responsabilité du ministère est directement mise en cause dans la création du syndicat Avenir Lycéen, mais aussi dans son instrumentalisation pour porter son projet politique.
Le ministère se servait de cette organisation-là pour dire « Regardez, on consulte les lycéens, regardez, les lycéens sont écoutés ». Et aussi, sur le point de vue financier, il s'en est servi pour justifier des baisses de nos subventions. Alors que nous, on avait de plus en plus d'adhérents, qu'on menait de plus en plus d'actions, on nous a divisé nos subventions par 2/3, et on est enfin content qu'on puisse retrouver notre légitimité institutionnelle qui nous est due de droit.
Et l'UNL ne compte pas en rester là.
La prochaine étape, c'est la plainte et la demande de démission du ministre Blanquer. Là, on parle d'un ministère qui a donné 6 000 euros à des lycéens, qui a accepté qu'il les utilise dans des hôtels de luxe et dans des restaurants de luxe, qui a participé à la création de cette association-là. On ne comprend pas, à partir de ce scandale d'État, comment le ministre peut encore rester en place et ne pas dire un mot sur ce qui s'est passé.
Le syndicat lycéen espère aussi qu'une commission d'enquête parlementaire verra bien le jour et apportera encore de nouvelles révélations.
Commission d'enquête parlementaire réclamée également par des élus communistes et insoumis. Jonathan Daval, condamné hier soir devant les assises de Vesoul à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme, Alexia. Ses avocats annoncent qu'il ne fera pas appel. Les femmes victimes de leur conjoint ou de leur ex, une victime tous les 2 jours et demi en France, et le plan choc contre ces violences, présenté demain au gouvernement, détaillé ce matin dans le Parisien. 3 ans de travail, 400 000 participants. Au final, plusieurs propositions comme l'aide au signalement, une plateforme numérique pour aider les femmes à prendre conscience de ce qui leur arrive ou encore des places en hébergement d'urgence pour 10 000 femmes par an. On en reparlera dans le journal de 9h sur Inter. Une seule édition de Dimanche Ouest France contre 10 habituellement. Le premier quotidien de France par sa diffusion, victime d'un virus informatique dans la nuit de vendredi à samedi. Le virus a touché tout le système au moment de l'impression. Des cyberattaques qui se multiplient alors que le télétravail est en plein boom. Plusieurs mairies affrontent en ce moment ce qu'on appelle dans le jargon des ransomware, des hackers malveillants qui prennent en otage les données et demandent une rançon en échange. Après Vincennes ou Alfortville, Sandy Dauphin, la mairie d'Aulnoy-Aymeries dans le Nord est victime à son tour.
Calix, c'est le nom de ce virus informatique qui a pris d'assaut la mairie d'Aulnoy-Aymeries mercredi.
Quand je suis arrivé à mon bureau, je n'ai pas réussi à transmettre des messages. Et donc j'ai alerté mon collègue informaticien qui m'a tout de suite indiqué qu'on avait été piraté.
Il a fallu éteindre les ordinateurs et même les téléphones fixes. Retour au papier stylo, un piratage qui choque les employés de la mairie. Jean-Luc Bonnechère, directeur général des services.
On revient à des pratiques ancienne, à écrire à la main des documents. On reprend les inscriptions manuscritement, quoi. Par rapport à l'ambiance liée au Covid, ça se rajoute au stress et au caractère un peu anxiogène de la situation. Mais bon, on va se débrouiller. Hein.
Ce virus a crypté les données informatiques de la mairie, état civil, comptabilité, ressources humaines. Les hackers malveillants proposent un antidote, mais en échange d'une rançon en bitcoin, monnaie de l'internet. Un scénario bien connu du prestataire informatique dépêché en urgence sur place à la mairie.
Il s'agit d'un ransomware, donc c'est-à-dire que c'est un virus qui prend en otage vos données en les cryptant. Après, il demande une rançon pour récupérer la clé et ainsi déchiffrer les fichiers qui sont chiffrés. Ces dernières semaines, il y a eu une recrudescence, alors pas forcément par le même virus, mais par des virus similaires.
La commune d'Aulnoy-Aymeries ne sait pas quand elle peut espérer un retour à la normale. Elle craint de perdre plusieurs mois de données informatiques.
Sandy Dauphin.
À 8h12, c'est l'heure des sports.
Le Vendée Globe, les skippers au large du Brésil avec Thomas Ruan toujours en tête au classement suivi de Charlie Dalin. Le Britannique, le favori, Alex Thompson descend lui en troisième position, avarie majeure sur son bateau. Ses équipes à terre, nous dit-on, travaillent à un programme de réparation. Djokovic battu, Nadal battu, le vent de la relève au Masters de Londres avec la finale ce soir entre Dominique Thiem et Daniil Medvedev. Et quoi qu'il se passe, Fabrice Abgral, le vainqueur entrera dans l'histoire du tennis.
Car ce sera pour l'un des deux un premier titre au Masters. Dominic Thiem disputera sa deuxième finale à Londres. La première, il l'a perdue l'année dernière face à Stefanos Tsitsipas. Mais depuis, l'Autrichien numéro 3 mondial a changé de dimension en s'adjugeant en septembre dernier l'US Open. C'est ce que dit l'ex-joueur français Paul-Henri Mathieu.
Il a pris de l'assurance, de la confiance et c'est venu aussi de son titre à l'US Open. Voilà, il a vraiment aujourd'hui un niveau moyen qui est très très élevé et surtout contre les meilleurs. Il arrive à hausser son niveau de jeu de manière assez incroyable et il est vraiment très difficile à aller chercher.
Daniil Medvedev, de son côté, jouera sa première finale au Masters, lui, le quatrième mondial, vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy en octobre dernier. Medvedev reste sur 9 victoires d'affilée et aujourd'hui, il est en pleine possession de ses moyens pour tenter de décrocher le plus prestigieux titre de sa carrière. Gilles Servara est l'entraîneur de Daniil Medvedev.
Sûr de lui, sûr de son tennis depuis quelques temps maintenant, encore plus là avec les résultats qu'il a. C'est quelqu'un d'ambitieux, de déterminé, il a encore faim, il a encore envie et les choses sont à leur place, tout est bien calibré.
Dominic Thiem a remporté 3 des 4 matchs qui l'ont opposé à Daniil Medvedev. La dernière victoire de l'Autrichien, c'était en septembre dernier, en demi-finale à l'US Open.
Thiem Medvedev en finale des Masters de Londres, c'est à 19h. Autre rendez-vous du jour, c'est du rugby, c'est aussi notre esprit sport. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Alors que le 15 de France affronte cet après-midi l'Écosse dans la toute nouvelle Coupe d'automne des Nations, on apprend que 3 nouveaux pays rejoignent World Rugby, c'est la fédération internationale du rugby qui compte désormais donc 128 membres.
L'Iran, le Laos et le Burkina Faso, tous les 3 pourront désormais prétendre en fonction de leur zone géographique et de leur niveau, bien sûr, aux compétitions internationales de prestige et notamment les sélections de Coupe du Monde. Une belle récompense pour ces 3 pays qui s'engagent depuis plusieurs années pour développer le rugby. Prenons l'exemple de l'Iran. À part le demi de mêlée Cardoni né à Téhéran qui a joué à Leicester dans les années 90 et dans la sélection anglaise, on ne peut pas dire que ce soit une nationalité très répandue dans les meilleurs championnats et pourtant, progressivement, pendant ces mêmes années 90, la pratique se répand dans les universités iraniennes, notamment au point qu'en 2000, la fédération de baseball est remplacée par une fédération de rugby. En 2007, l'Iran joue ainsi son premier match international lors d'un tournoi au Sri Lanka. Et finalement, la saison dernière, on comptait 12 000 licenciés dans le pays, autant qu'en Belgique, plus qu'en Géorgie ou en Uruguay. Avec une particularité, là-bas, plus de la moitié des licenciés sont des femmes pour qui ce sport est un moyen d'émancipation. Autre chiffre significatif, aujourd'hui, l'on compte 300 arbitres iraniens certifiés par World Rugby contre moins d'une dizaine en 2011.
3 nouveaux membres, un pays d'Afrique et 2 d'Asie, ce qui confirme la stratégie d'ouverture de World Rugby depuis quelques années.
Oui, une ouverture nécessaire puisqu'on l'a dit, World Rugby compte désormais 128 membres, seulement 128 membres quand les fédérations internationales de football, de volley ou d'athlétisme dépassent largement les 200. D'où l'organisation l'an dernier du mondial au Japon qui a été un succès inimaginé et qui devrait contribuer au rayonnement du rugby en Asie, cible très privilégiée, comme pour le football après la Coupe du Monde de 2002 en Corée et au Japon justement, qui permet aujourd'hui au ballon rond de peser plusieurs milliards d'euros sur le continent. Parallèlement, World Rugby met en place plusieurs initiatives, toujours en Asie, la campagne « Pas Acid Back, par exemple, utilise le rugby pour aider les enfants défavorisés au Vietnam, en Thaïlande et au Laos. De nouvelles nations convaincues aussi par l'attrait de la médaille, car depuis 2016 et les Jeux de Rio, le rugby à 7 est devenu un sport olympique, ce qui a poussé de nombreux néophytes à se lancer. Autant de pistes qui devraient permettre à World Rugby d'atteindre son objectif pour 2021, 40 millions de supporters supplémentaires et 2 millions de nouveaux joueurs.
Merci Emma Sarango et le 15 de France en terre écossaise. Coupe d'automne des Nations, c'est à 16h15 cet après-midi.
Hélène Roussel pour le journal Le Temps de ce dimanche. Le soleil pour le sud, Jean-Michel Golinski.
On retrouve aujourd'hui un ciel nuageux sur les régions les plus septentrionales, du nord de la Bretagne à la Belgique, avec un aspect plus gris à proximité de la Manche et probablement des intermèdes faiblement pluvieux, contraste avec le ciel tout bleu de la moitié sud, et entre les deux, souvent un mélange de soleil et de ciel voilé, notamment du Val-de-Loire à l'Île-de-France et sur Champagne-Ardenne. Ce matin, sous les nuages de la moitié nord, les températures affichent 5 à 12 degrés, mais plus au sud, sous le ciel clair, il faisait souvent entre 0 et moins 2 jusqu'à moins 5 sur la Bourgogne et l'Alsace. Cet après-midi, il est prévu 7 à 9 degrés entre Nancy, Strasbourg et Lyon, 11 à 13 sur le reste de la moitié nord et 14 à 16 du sud-ouest à la Côte d'Azur et sur la Corse.